Écho d'économie, Jocelyne Moussaou.
L'actualité économique d'ici et d'ailleurs, Écho d'économie, toute l'équipe est là, Guy Manzango est à la mise en onde, Daniel Tambinzoni à la réalisation et Berry Franklin Luchaka est là pour nous donner les nouvelles.
Dans le Kassai oriental, 3 mines de diamants sont suspendues d'activité par le ministre provincial des mines. Ce sont 2 mines que rivalisaient 2 comités de gestion des mines et Chris Moukan nous le dira dans 2 minutes. Et puis clôture hier à Mwanda dans le Bas-Congo de la table ronde sur les hydrocarbures. Les recommandations de cette table ronde dans la seconde partie de cette émission avec notre confrère Guy Roger Niampala.
Une seconde partie qui reçoit Tesh Thiey, secrétaire exécutif de la société civile Kolwezi, qui réagit sur les propos de la LICOF qui demande à la GECAMINE de retirer sa plainte contre elle, la société civile Kolwezi donc. La RDC dispose désormais de son budget pour l'exercice 2010.
Le chef de l'État l'a promulgué hier tard dans la soirée, un budget de l'ordre de plus de 6 milliards de dollars. Sa promulgation intervient plus de 3 semaines après le début de l'exercice 2010. Les députés se félicitent de cette loi financière. Ils espèrent que le gouvernement sera en mesure d'exécuter ce budget. L'exécution de ce budget par le gouvernement implique 2 facteurs essentiels. D'abord, la mobilisation des recettes et à ce stade, les régies financières, notamment la DGI, FIDA et la DGIRAD doivent jouer un rôle décisif dans leurs assignations respectives. Ensuite, le respect de l'affectation de ces recettes conformément au budget. Les députés insistent également au respect des montants réservés aux provinces, soit 40% de leur production. C'est un engagement constitutionnel, explique-t-il.
Le comité de pilotage du ministère du Plomb a adopté aujourd'hui 7 projets sur la microfinance.
Il y en avait 8 qui étaient retenus par le Fonds pour la consolidation de la paix en RD Congo, une structure chargée de gérer le fonds rendu disponible par la coopération germano-congolaise à travers le ministère du Plomb de la RDC et le ministère fédéral de la coopération économique et du développement de l'Allemagne. Ce sont des projets qui ont répondu aux critères d'éligibilité, à savoir l'utilisation maximale de la main-d'œuvre locale, la rapidité de la création d'emplois, la création des revenus et la redynamisation de l'économie locale. Plus de détails dans la bonne nouvelle économique de lundi prochain à 5h50 et 8h27 heure de Kinshasa.
Et puis nous venons de l'apprendre, les gestionnaires des 2 coopératives qui œuvrent au marché de la liberté à Kinshasa se sont volatilisés dans la nature.
Il s'agit de la coopérative d'épargne et de développement intégral et de l'OFED dont nous vous donnerons les détails dans notre prochaine émission. Selon les premières informations qui nous parviennent de l'administrateur adjoint du marché de liberté, c'est depuis le décès du propriétaire de l'OFED entre les mois d'octobre et novembre dernier que les épargnants sont à la recherche de leur coopérative. Tandis que la coopérative d'épargne et de développement intégral, ça fait pratiquement 6 mois que l'organisation ne se fait plus voir. Notons que la plupart des épargnants sont les commerçants du dit marché.
Et puis les agents de l'entreprise Golden African Mining au Katanga sont en colère.
Ils ont manifesté hier pour protester contre 3 mois de non-paiement des salaires et l'amélioration des conditions de travail. Quelques agents indiquent qu'ils travaillent sans kit de protection et parfois ils déboursent de leur argent pour le transport vers leur usine située à 9 km du centre-ville de Lubumbashi, voulais-je dire. Ils ont brûlé hier des pneus et barricadé la route et tout en refusant à tout commentaire à la presse, les responsables de Golden Africa Mining ont recouru à la police pour disperser les manifestants. Notons que Golden Africa Mining est situé sur la route Likasi.
Et puis il n'y a pas d'administration dans le foyer minier des Balaka dans le groupement de Mobenge Mondila.
Nous sommes là dans le territoire de Bondo, à environ 600 km au nord de Kisangani en province orientale. L'administrateur assistant de ce territoire qui donne cette information en citant les témoins précise que son chef hiérarchique a été chassé par les autochtones instrumentalisés par le chef du groupement. À la base, un conflit ouvert entre l'administrateur de ce foyer minier et l'autorité des Mobenge qui l'accuse de détournement des fonds destinés à la collecte.
La nouvelle économique au bout du fil.
3 mines d'exploitation artisanale de diamants viennent d'être fermées jusqu'à nouvel ordre dans les territoires de Miabi et Lupatapata, aux alentours de la ville de Mbujimayi, où nous retrouvons Chris Moukand. Chris, bonsoir. De qui est cette décision?
Bonsoir Jocelyne. La dernière décision de fermeture des mines a été rendue publique ce jeudi 28 janvier 2010 par le ministre provincial de mines et hydrocarbures. Elle touche, cette décision, les mines de Masaka à Tchaba et de Masanka à Bakwampuka de localités situées en territoire de l'Upakapata. Une autre mine, elle, fermée le 26 janvier dernier, est également dénommée Masanka, mais elle est dans la localité de Katende, en territoire de Miabi.
Et comment le ministre provincial de Mines motive-t-il ces mesures?
Athanase Mwamba Kakanda, ministre provincial de Mines et Hydrocarbures, affirme avoir pris cette décision à cause des nombreux désordres et des bagarres à répétition dans ces mines. Mais surtout, explique-t-il, il n'existe pas de comité de mines responsable dans tous ces carrés. Ceux qui sont là ne sont pas officiellement reconnus.
Mais dites-nous, Chris, quelles peuvent être les conséquences de cette mesure?
Si ces mesures sont suivies et bien accompagnées, Jocelyne, elles pourront permettre de remettre de l'ordre dans ces mines. On pourrait enfin se donner la peine de se constituer un comité responsable. Mais l'autre côté de la médaille, c'est que la décision de fermer une mine fait des malheurs à plusieurs niveaux. Tenez, Jocelyne, un seul site d'exploitation artisanale de diamants donne du travail à des centaines de personnes. Il y a dans une mine des creuseurs, ceux qui cherchent vraiment là où se trouve le diamant ou la ceinture de sable contenant du diamant, un travail ardu donc. Il y a les sponsors qui financent les travaux. On les compte parmi les négociants en diamant. Il y a le propriétaire du carré minier ou lopin de terre susceptible de régorger des gisements. Les autochtones, les propriétaires du village où est située la mine, sont également là. Mais à côté de cette liste, qui n'est par ailleurs pas exhaustive, il y a toute une brochette de délégués de plusieurs services publics ou services étatiques, en commençant par la division de mines, les services de sécurité, passant par le gouvernorat de province. Tout le monde ou presque se retrouve dans une mine de diamants. Donc, fermer une mine de diamants crée des manques à gagner à cette criée de services. Et puis, il faudrait le noter, le diamant a de tout temps constitué la source de richesse pour l'île de Mbujimayi et ses environs. Quand il y a une mine à fort gisement qui est exploitée, cela se ressent sous la vie socio-économique des populations et des localités abritant ces mines, et même sur le marché des centres urbains, Jocelyne.
Merci beaucoup à Chris Mukande pour cette intervention.
Merci Jocelyne, bonsoir.
Info économique en Afrique et à travers le monde. Berry Luchaka.
Berry, l'ABAD approuve un montant de 38 millions de dollars pour le financement d'un projet d'électricité au Burkina Faso.
C'est sur les ressources du Fonds africain de développement, le guichet concessionnel du groupe, pour financer le projet de renforcement de l'infrastructure électrique et de l'électrification rurale dans le pays. Le Conseil a également approuvé un don FAD de 1,49 millions de dollars américains pour le même projet.
Les chiffres d'affaires de Fujifilm est déficitaire sur 9 mois.
C'est à cause de la trop lente reprise du yen, affirme le groupe japonais des technologies de l'image Fujifilm Holdings aujourd'hui. Ce groupe a fait état d'une perte nette au terme des trois premiers trimestres de son exercice 2009-2010 de près de 52,5 millions d'euros pour la période d'avril à décembre 2009, alors qu'il avait gagné un bénéfice net de 29,45 milliards un an plus tôt à pareille époque.
Merci beaucoup Berry Franklin Luchaka pour ces informations en international. Voici la seconde partie de Écho d'économie.
Écho d'économie, le dossier.
La table ronde sur l'exploitation pétrolière s'est clôturée hier à Mwanda, territoire situé à plus de 200 km à l'ouest de Matadi dans le Bas-Congo. Un rapport final de 14 pages a été adopté et rendu public. Des recommandations ont été formulées à l'endroit de toutes les institutions de la province du Bas-Congo et celles du pays, aux entreprises pétrolières ainsi qu'aux populations locales. Guy Roger Niampala, vous avez suivi le déroulement de ces assises de 3 jours. Quelles en sont les recommandations?
En résumé, retenez qu'au gouvernement central et provincial, les participants ont recommandé de vulgariser les textes légaux sur les droits et obligations des sociétés pétrolières et par rapport à l'occupation des terres, de respecter la constitution au sujet de la retenue à la source de la quotité qui revient de droit au territoire de Mwanda sur les recettes pétrolières et faire du pétrole une affaire de gestion participative entre les communautés et les sociétés pétrolières. Jean-Marie Mwanda, coordonnateur de l'ONG Action pour le droit et à l'environnement, ADEV en sigle, et responsable de la société civile et participant à cette table ronde, a également insisté sur la gestion de ces ressources pétrolières, Jocelyne.
Les entreprises pétrolières ont des investissements importants et nous pensons que ces entreprises doivent bénéficier aussi de l'attention du gouvernement et des communautés locales. Les entreprises doivent venir puisque nous avons des ressources naturelles qui doivent être exploitées et que ces ressources ne peuvent pas pourrir sous les sols comme ça. Mais nous insistons toujours sur le fait que ces investisseurs qui viennent travailler travaillent chez nous doivent travailler dans le respect des normes, puisque le pétrole, c'est une ressource qui pollue beaucoup. Il faut que l'exploitation soit responsable.
Voilà, c'était le coordonnateur de l'ONG Action pour le droit à l'environnement et la vie. Mais qu'est-ce qui a été demandé aux entreprises et aux communautés locales, Guy Roger?
Jocelyne, les conférenciers ont demandé entre autres aux entreprises pétrolières de mettre en place une politique d'embauche basée sur la transparence et la justice, et aux communautés locales, il leur a été demandé de ne pas s'en prendre aux installations de ces entreprises pétrolières, et des préoccupations ont été soulevées sur l'application de ces recommandations par certains participants à ce forum. C'est le cas du chef d'équipement de mandat qui, avant de signer le rapport final, avait annexé au rapport un document dans lequel ils affirment qu'ils renieront pratiquement leur signature si ces recommandations ne sont pas appliquées. Attitude que Jean-Marie Mwanda respecte. Il pense cependant que c'est un début et qu'il faut avancer.
Dans l'ensemble, je peux dire que on a validé quand même certaines préoccupations des populations locales. Mais c'est une œuvre humaine. Je crois que maintenant, nous ne pouvons pas exiger la perfection. Ce qui est important, c'est que nous venons de commencer quelque chose et nous devons continuer à avancer. Il faut applaudir déjà ces débits, c'est très important. Parce qu'au fur et à mesure, peut-être en faisant l'évaluation de toutes les recommandations, la mise en œuvre de toutes les recommandations de cet atelier, on pourra toujours se redéfinir.
Merci beaucoup Guy Roger Nyampala pour ce dossier. Bon week-end.
Merci pareillement à vous.
L'entretien de ce soir.
L'entretien de ce soir, c'est avec Tesh Thiey, secrétaire exécutif de la société civile Kolwezi. Monsieur Thiey, la Ligue contre la corruption et la fraude a demandé cette semaine à la GECAMINE de retirer sa plainte contre vous, société civile de Kolwezi. Qu'est-ce que vous en dites?
À Kolwezi, nous n'avons pas suivi directement ce qui a été dit, mais en différé, nous avons suivi les déclarations de la Ligue contre la corruption et nous sommes très surpris et très déçus. Le dossier est déjà en justice. Le procureur général de la République à qui la lettre était adressée a déjà répondu. Ici, c'est un problème d'intérêt national. Nous préférons que la justice s'occupe de ce problème jusqu'au bout. Le monsieur de la Likoff qui a parlé, nous ne l'avons pas mandaté. Je ne sais pas au nom de qui il a parlé.
Au nom de la société civile, justement, parce qu'il estime que la Ligue contre la corruption et la fraude fait partie de la société civile.
La bonne Ligue contre la corruption et la fraude travaille à tolérance zéro. Donc, ce que ce monsieur peut faire de très très bon, c'est qu'il laisse la justice faire son travail et qu'on puisse améliorer le fonctionnement de la GECAMINE. La société civile de Kolwezi n'a pas de problème avec qui que ce soit. La société civile de Kolwezi est du fait que la GECAMINE est en train de se décapitaliser et de mourir du jour au lendemain. Et la société civile de Kolwezi a attiré l'attention du pouvoir public pour que des actions soient faites pour que cette GECAMINE survive, pour que le Katanga puisse survivre. Et nous sommes très très étonnés. Il n'y a pas que lui, il y a beaucoup de gens qui interfèrent là-dedans, dans une histoire qui est... Il n'y a pas d'implication dans cette histoire, il n'y a que la survie qui est recherchée par la société civile de Kolwezi.
Donc vous estimez que jusque-là, vous n'êtes pas en mauvaise position, comme l'a déclaré la Likoff?
Nous ne sommes pas à belle position. Tout simplement, ce que nous voulons juste qu'ils fassent, c'est que la justice s'est déjà prise de ce dossier et que la justice essaye de faire en sorte que la GECAMINE puisse marcher. Il n'y a pas que la justice, il y a aussi l'État, il y a des pouvoirs exécutifs, ils ont intérêt à ce que la GECAMINE marche, puisque c'est une opération win-win. Dès que la GECAMINE marche, elle paiera ses taxes à Congolais, l'État peut très bien travailler, ses budgets peuvent fonctionner correctement, la population GECAMINE qui aujourd'hui peut être assez régulièrement, et la vie va reprendre.
Mais est-ce que vous aviez toutes les preuves de ce que vous avez allégué? Par exemple, la Likoff qui dit que selon ses investigations, Paul Fortin n'a pas démissionné parce qu'il avait l'impression qu'on le mettait un peu à l'écart des opérations d'exploitation, de commercialisation des produits de la GECAMINE. Et c'est ce que vous avez dit dans votre mémo.
Ils peuvent avoir raison et Paul Fortin doit venir rendre compte aussi. Paul Fortin a été engagé dans le cadre de Sofreco et ce contrat se termine comme la GECAMINE n'a pas évolué. Donc nous n'avons pas fait le plaidoyer de Paul Fortin. Nous voulons tout simplement que GECAMINE survive.
Non, mais sur ces points-là, c'est comme si vous avez fait un plaidoyer pour lui et que c'est que vous avez avancé, c'est avéré faux.
Non, c'est justement les gens ont mal lu notre dénonciation. Hein. Les gens n'ont qu'à la lire du début à la fin. La seule personne qui a été citée à incriminer là-dedans, c'est Paul Fortin. Nous avons juste fait un plaidoyer pour la Gécamine, pour que la Gécamine marche bien. Imaginez-vous, on engage un expert et puis il démissionne, il part, il n'a pas réalisé ce qu'il devait réaliser et nous tous nous regardons, nous applaudissons. Non, Paul Fortin doit venir rendre compte aussi, hein. Mais qu'on ne discute pas sous la tête des gens que tel a écrit là-bas. Qu'on discute sur les faits pour trouver des solutions et peut-être à ce moment-là, même le comité de gestion peut bien fonctionner. C'est dans ce sens que ça a été fait.
Tièche, merci hein, d'avoir répondu aux questions d'Écho d'économie. Et vous réagissiez aux propos tenu par la Ligue contre la corruption et la fraude qui demandait à ce que la Gécamine retire sa plainte contre vous. C'est avec vous que nous terminons Écho d'économie de ce soir. À vous, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous réécouter sur www.radiocapi.net ou prendre un autre rendez-vous. C'est pour lundi 18h15, heure de Kinshasa. Bonne soirée et surtout, bon week-end.